Bonjour à tous. Je vais faire cette présentation en français ou en anglais, si vous préférez. Enfin, en français. Et puis, les diapos sont en anglais et les questions peuvent bien sûr être dans la langue que vous souhaitez. Donc, je vais parler de The Share Care Survey of Health, Aging and Retirement in Europe, et qui est une autre enquête européenne. Et donc, pour savoir si cette enquête est pertinente ou pas pour étudier les inégalités de santé, et donc vous présenter le descriptif de cette enquête et quelques résultats qu'elle a apportés sur le sujet des inégalités de santé. Alors, cette enquête est une enquête en face-à-face, également, mais elle concerne uniquement les individus âgés de 50 ans et plus. Donc, l'échantillon est donc très différent de celui de l'enquête qui nous a été précédemment présentée, puisque cette enquête a été initialement faite essentiellement pour étudier le vieillissement et les problématiques liées au vieillissement. C'est donc pour cela que l'échantillon est limité aux personnes âgées de 50 ans et plus. C'est une enquête internationale qui, aujourd'hui, concerne 18 pays européens et Israël, mais la prochaine vague, qui aura lieu cette année, concernera 28 pays européens. Si l'on regarde un plan de l'Europe, on peut voir que lors de la première vague, qui a été initiée en 2004, il y avait simplement 11 pays, et l'échantillon global de l'enquête était de 3000 répondants. Au fur et à mesure des vagues, cette enquête est à présent faite tous les 2 ans, et donc au fur et à mesure des vagues, le nombre de pays inclus dans l'enquête Share a augmenté. Comme je vous dis, aujourd'hui, pour la prochaine vague, nous sommes, quoi qu'il y ait actuellement en test, nous sommes avec 28 pays. Et nous aurons donc un échantillon beaucoup plus large qui devrait concerner 100 000 répondants environ. Alors, cette enquête concerne donc les pays qui sont sur ce plan pour la VAC6, mais elle résonne aussi avec d'autres enquêtes qui existent à travers le monde. Et initialement, la grande sœur de l'enquête Share est l'enquête HRS, le Health and Retirement Survey aux États-Unis. Donc, qui a servi de modèle pour designer cette enquête. Mais il y a d'autres enquêtes qui sont également comparables dans leur questionnaire et dans leur méthodologie. L'enquête ELSA en Grande-Bretagne, mais également l'enquête CHARLES en Chine, l'enquête G-STAR au Japon, LASI en Inde ou encore SABE en Amérique du Sud. Donc c'est véritablement une enquête très internationale qui permet d'avoir un suivi très comparable dans des pays, des continents différents. Alors l'intérêt de cette comparaison internationale est de pouvoir à la fois étudier des phénomènes au niveau de l'Europe, sur un échantillon très large, mais bien sûr aussi pouvoir faire des comparaisons internationales, comme ça a été présenté, et pouvoir étudier l'impact des systèmes d'organisation, des systèmes de protection sociale, par exemple, des systèmes de sécurité sociale, des systèmes politiques. La troisième spécificité de cette enquête, c'est que c'est une enquête qui est fondamentalement longitudinale. Elle est faite tous les 2 ans, elle peut être utilisée comme un cross-sectional survey, mais elle est également un panel, donc un longitudinal survey. Et donc, évidemment, tous les individus ne sont pas suivis parce que, comme vous l'avez vu, le nombre, la taille de l'échantillon n'était pas le même à chaque vague. Notamment, la vague 3 en France a permis de doubler l'échantillon, par exemple. Mais aussi parce que nous avons un petit peu d'attrition et puis il y a des décès. Mais fondamentalement, donc, c'est une enquête qui est là pour suivre l'évolution de l'état de santé, de la situation sociale des personnes et de leurs conditions de vie. La dimension longitudinale s'inscrit aussi à travers des questionnaires spécifiques, un introduit en vague 3 et qui sera reconduit en vague 7, à travers l'histoire de vie. Donc ce questionnaire spécifique s'appelle Share Life, et donc cette année-là, l'enquête Share a essentiellement renseigné le parcours de vie des personnes, donc depuis leurs conditions de vie pendant l'enfance, à travers l'entièreté de leur itinéraire professionnel tout au long de la vie, jusqu'à la retraite. Et donc, ces informations peuvent être utilisées aujourd'hui pour, quelque part, hein, renseigner des variables qui ne sont pas encore observées dans le suivi longitudinal, mais qui peuvent être pertinentes pour comprendre l'état de santé des personnes aujourd'hui, et notamment les inégalités. Enfin, cette enquête est multidisciplinaire, et donc, même si au départ, elle a été initiée par des économistes, hein, elle est aujourd'hui coordonnée et conduite par Axel Borchupan du Center for Economic Analysis of Aging, elle fait intervenir aussi d'autres sciences sociales et de santé. Donc, initialement, beaucoup de choses ont été faites sur le travail, la retraite, le revenu, le patrimoine, les transferts financiers, mais également, elle renseigne l'éducation, les relations au sein de la famille et notamment les soins intergénérationnels apportés et les transferts intergénérationnels qui sont faits, qu'ils soient monétaires ou sous des formes notamment de soins aux personnes âgées. Elle renseigne également les relations sociales des personnes également. Concernant la santé, elle a un ensemble très large, j'y reviendrai tout de suite, d'indicateurs de santé permettant de renseigner la santé physique, la santé mentale, par exemple, les limitations cognitives, mais aussi la mortalité. Enfin, c'est une enquête qui a été conçue par des chercheurs pour des chercheurs. Elle est donc en accès libre, hein, cette adresse-ci. Et de nombreux, la seule chose est de s'inscrire comme utilisateur de cette enquête. Cette enquête est également donc à destination des chercheurs et de très nombreux articles de recherche ont été produits sur la base de ces données. Mais aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'elle n'est pas dans tous les pays, elle est conduite dans des universités ou des centres de recherche. Elle est peu conduite dans des centres nationaux de statistiques, ce qui fait que les personnes impliquées dans la fabrication de cette enquête sont chercheurs et donc introduisent des questions pour leurs problématiques de recherche. Qui, bien sûr, alors évidemment, le questionnaire doit avoir une durée limitée. Donc, même si les chercheurs ont plein d'idées sur les questions qui pourraient être introduites, il faut choisir et des choix sont opérés de manière centralisée. Venons-en aux indicateurs de santé utiles notamment pour l'étude des inégalités sociales de santé. J'ai produit ici un tableau qui avait été produit par Owen O'Donnell dans un rapport initialement pour la Commission européenne sur les enquêtes, la comparaison d'enquêtes utiles à l'époque pour mesurer les inégalités sociales de santé. Comme vous pouvez le voir, hein, par rapport aux enquêtes existantes, Cher avait de plus nombreux indicateurs de santé disponibles que de nombreuses enquêtes, et notamment l'intérêt de cette enquête était d'avoir bien sûr les trois premières questions sur la santé perçue, les maladies chroniques et les limitations d'activité que l'on trouve dans toutes les enquêtes européennes, mais d'avoir ensuite des échelles de dépression, beaucoup de mesures liées à la dépendance et donc notamment aux activities of daily living, donc aux restrictions d'activité des personnes liées au vieillissement. Également des listes de maladies diagnostiquées, notamment une liste de maladies chroniques diagnostiquées, des indicateurs comme l'indice de masse corporelle, mais aussi des mesures objectives d'état de santé, avec notamment une mesure de la force de préhension et le grip strength et aussi la vitesse de marche, a été également testée avec un peak flow, le souffle des personnes pour mesurer les problèmes pulmonaires. Et donc, ces mesures étaient faites directement au domicile de l'enquêté. Bien évidemment, nous avons également une mesure qui, elle, est totalement objective, qui est la mortalité. Ce tableau avait été produit en 2009, mais donc depuis, d'autres indicateurs de santé ont été rajoutés, notamment les limitations cognitives. La dernière vague a introduit des analyses de sang pour mesurer le niveau de cholestérol, par exemple, mais également des questions ont été introduites sur la santé dentaire. En complément de ces indicateurs de santé, cette enquête recueille aussi des indicateurs d'utilisation des soins et des besoins de soins non couverts, unmet needs, mais également des mesures plus spécifiques qu'on trouve plus rarement, notamment sur les soins de long terme et pas uniquement les soins médicaux fournis en hôpital ou dans le système ambulatoire. Et puis cette enquête renseigne également sur les comportements liés à la santé et notamment l'histoire tabagique, la consommation d'alcool et la nutrition. Alors, si maintenant on voit d'autres dimension importante pour s'intéresser aux inégalités sociales de santé. Cette enquête couvre un grand nombre de questions sur la situation socio-économique des personnes à travers un recueil très précis du niveau de revenus, l'éducation ou l'occupation, comme l'on trouve traditionnellement, mais également une mesure du patrimoine des personnes. Et puis, d'autres questions permettent de voir plus largement d'autres facteurs pouvant expliquer les inégalités sociales de santé, comme par exemple le pays de naissance et la nationalité, ou encore la participation sociale, les social networks, mais aussi les conditions de vie dans l'enfance, et notamment l'occupation des parents et les conditions de vie dans l'enfance. Donc je vais à présent vous présenter quelques résultats qui ont été produits à partir de l'enquête CHER, issus de travaux auxquels j'ai pu participer ou d'autres chercheurs ont participé. Alors, les premiers travaux qui ont été faits sur l'enquête CHER ont, de manière traditionnelle, mesuré les inégalités de santé en fonction du statut socio-économique courant. Et vous avez ici, par exemple, les premiers résultats issus du First Result Book, donc de la vague 1, avec des odds ratios présentant le sur-risque de mauvaise santé perçue, de limitations dans les activités ou de problèmes de long terme liés au niveau d'éducation, au niveau de revenu, un faible niveau d'éducation ou un faible niveau de revenu. Ici, ces résultats étaient faits pour l'Europe dans son ensemble et de manière évidente, on voit un très fort gradient social de santé pour tous ces indicateurs. Ces travaux ont été poursuivis dans une optique comparative. Et je vous présente ici les résultats, par exemple, de Christina Masseria et ses co-auteurs de la London School of Economics qui avaient été produits pour l'Union européenne, des comparaisons d'indices d'inégalité, donc ici mesurés avec ce qu'on appelle les indices de concentration, utilisés par les économistes pour mesurer l'intensité des inégalités. Et comme vous voyez, ces travaux ont été utilisés pour, d'une part, comparer les pays. Ici, on voit par exemple que les niveaux d'inégalité liés au niveau d'éducation sont par exemple plus importants au Danemark et aux Pays-Bas qu'en Espagne et en Suisse, même s'ils existent dans tous les pays. Mais aussi pour comparer l'ampleur des inégalités obtenues en fonction des indicateurs socio-économiques retenus ou des indicateurs de santé. Donc ici, nous avons en fonction de l'éducation. Nous avons ici les mêmes indicateurs, mais utilisant le niveau de revenu. Et l'on voit, par exemple, que pour les Pays-Bas, on obtient une image complètement différente des inégalités. Ils se retrouvent avec de faibles inégalités de santé liées au niveau de revenu, alors qu'ils en avaient de fortes par rapport au niveau d'éducation. En revanche, l'Espagne et respectivement le Danemark conservent leur position à l'extrême de cette échelle. Si maintenant nous regardons le patrimoine qui est rarement recueilli, on voit là encore que l'on obtient un ordre qui peut être différent, mais surtout des niveaux d'inégalité beaucoup plus importants. Donc cette enquête a par exemple permis de voir que quand on s'intéressait aux personnes âgées notamment, le patrimoine pouvait être un indicateur beaucoup plus pertinent pour montrer l'ampleur des inégalités sociales, alors que c'est un indicateur qui est rarement recueilli. Nous voyons ici, là encore, des inégalités qui sont calculées, je vous ai mis ici, uniquement en fonction du patrimoine, mais cette fois-ci pour un autre indicateur de santé, qui est les maladies chroniques. De manière usuelle, on voit de beaucoup plus petites inégalités lorsqu'on mesure la santé par les maladies chroniques, notamment en raison des difficultés d'accès aux soins qui font que les personnes connaissent moins leurs maladies chroniques. D'autres indicateurs ont pu être utilisés. Je vous présente ici les résultats d'Aida Soleoro sur les inégalités en Europe en fonction de l'origine des personnes. Et donc, cette étude comparative avait permis notamment d'étudier pour de nombreux indicateurs de santé le sur-risque ou le sous-risque que connaissaient les migrants d'avoir un bon état de santé. Ce travail, par exemple, a permis de montrer qu'en France, quel que soit l'indicateur retenu, sauf peut-être les ADL, donc qui mesurent les restrictions d'activité les plus fortes, on observe un sur-risque de mauvaise santé des migrants, alors que dans d'autres pays, en concordance avec ce que l'on observe, par exemple aux États-Unis ou en Australie, les migrants sont plutôt en meilleure santé que les nationaux. Donc on voit une diversité en fonction des indicateurs, mais aussi en fonction des pays. Et donc, on voit, c'est la même chose aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas, les migrants sont plutôt en mauvaise santé, mais il y a des pays où les migrants sont en meilleure santé, comme par exemple en Espagne. En dehors de la nationalité, cette enquête avait également, avec ShareLife, permis d'étudier la contribution du social background, donc des conditions de vie dans l'enfance, et de la filiation sur les inégalités de santé. Et donc là, c'est une analyse que nous avions faite avec Sandy Tubeuf, qui s'était intéressée à comparer la contribution du statut socio-économique actuel par rapport au statut socio-économique transmis par les parents. Donc il s'agit ici de l'effet direct du statut des parents dans l'enfance et de la santé des parents. Ce que l'on voit évidemment, c'est que dans beaucoup de pays, la partie qui est le plus expliquée des inégalités provient ici du patrimoine, vient ensuite l'éducation. Mais ce que l'on voit, c'est que la santé des parents et l'origine sociale contribuent dans certains pays à égalité, par exemple, avec le niveau d'éducation. Et donc, considérer les conditions de vie dans l'enfance ou la santé des parents peuvent être autant pertinents pour comprendre l'origine des inégalités que l'éducation dans certains pays. Ces travaux sur les conditions de vie dans l'enfance et la santé nous ont également conduit, avec des co-auteurs, à nous intéresser à l'existence d'inégalités des chances en Europe. En effet, le statut social des parents et la santé des parents sont des paramètres qui ne sont pas choisis par les personnes et donc sont à l'origine de ce que l'on appelle des inégalités des chances, donc des inégalités que l'on peut considérer comme injustes avec certitude au regard de la philosophie de la responsabilité. Ce travail nous a permis, par exemple, de comparer le niveau des inégalités des chances et de pouvoir comparer ici, en fait, de mettre en évidence trois groupes de pays, des pays avec des inégalités des chances plutôt importantes, comme l'Autriche et la France ou l'Espagne, et des pays avec des inégalités des chances beaucoup plus faibles, comme par exemple les Pays-Bas ou la Suisse. Ces inégalités des chances ont pu également être comparées aux inégalités expliquées par ce que l'on appelle les efforts, et donc cette fois-ci les comportements à risque qui peuvent être considérés par la philosophie de la responsabilité comme choisis par l'individu. Donc c'est un travail qui répond lui aussi à une question un peu comparable à celle qui nous a été présentée précédemment, et donc qui s'interrogeait au poids respectif de l'origine sociale des personnes par rapport à leur comportement à risque. Là encore, on peut voir des indicateurs avec des niveaux très différents selon les pays. Cette fois-ci, de manière un peu concordante, la France fait plutôt partie des pays où la part des inégalités expliquées par les comportements à risque est plutôt faible par rapport à d'autres pays comme l'Allemagne, la Belgique ou l'Autriche, par exemple. Du coup, ça nous permet de dire qu'en France, si je prends l'entièreté des inégalités pures de santé, la variabilité de l'état de santé dans la population, eh bien, en France, elle est davantage expliquée par l'origine sociale que les comportements à risque, alors que ça n'est pas le cas dans d'autres pays d'Europe, où du coup, nous, en France, on a près de 70% de nos inégalités qui sont attribuables à l'origine familiale et sociale des personnes. Cette enquête a également permis d'étudier les inégalités dans le recours aux soins, qui sont un paramètre important des inégalités de santé. Je vous présente ici, par exemple, un travail que nous avions conduit avec des collègues de l'IRDES sur les inégalités de recours aux soins en France et en Europe. Et comme vous le voyez ici, si l'on compare par niveau de revenu, on observe une probabilité annuelle de recours qui augmente avec le niveau de revenu pour les soins de spécialistes et pour les soins préventifs. Ce travail nous a permis alors de chercher à comparer ces inégalités et à les relier au système de santé. Donc voici une analyse, par exemple, qui s'est intéressée à deux choses, à contrôler en mettant l'Europe entière l'impact du niveau d'éducation sur le recours à ces soins préventifs, mais aussi à comprendre la variabilité du paramètre lié à l'éducation entre pays. Et donc, comme on voit, cette analyse multiniveau avait permis de montrer qu'il y avait une variabilité dans le niveau moyen de recours, mais également une variabilité dans le lien entre éducation et recours aux soins selon les pays. Alors, on a pu mettre en relation ce recours aux soins avec les caractéristiques des systèmes de protection sociale des pays. Et notamment, ce travail a permis de montrer que la densité de spécialistes est quelque chose qui était fortement lié à la probabilité moyenne de soins de prévention dans les pays, que l'existence d'un gatekeeping également était quelque chose qui pouvait diminuer la moyenne de l'usage. Mais par contre, si l'on s'intéresse aux inégalités dans le recours et non plus à la moyenne, on a pu voir cette fois-ci que pour le diagnostic du cancer du sein, la mammographie, on avait un très fort effet sur l'ampleur de ces inégalités, du montant des restes à charge, out of pocket, un effet également de la densité de spécialistes qui peuvent aussi être mobilisés par les personnes plus éduquées, et enfin que les inégalités étaient plus faibles dans les systèmes nationaux de santé, donc comme par exemple en Grande-Bretagne. Enfin, le dernier exemple que je vais vous donner est celui de l'analyse récente qui a été faite sur la dernière vague grâce au recueil d'une variable sur les besoins non satisfaits, unmet needs, mais pour les soins de long terme, qui eux sont plus rarement renseignés que pour les soins en général. Et ici, on a une analyse de la différence du niveau des besoins de soins non satisfaits pour les personnes âgées en fonction des types de systèmes de protection sociale. Et on voit ici, en utilisant les typologies de Espy et Andersen, que dans les systèmes méditerranéens qui font appel à la solidarité familiale, par exemple, ou en Europe de l'Est, on voit un niveau beaucoup plus élevé de besoins de soins non satisfaits. Voilà, je m'arrêterai là, mais j'ai fait un petit extrait de quelques résultats issus de CHER sur les inégalités de santé, mais il y en a bien sûr de nombreux autres. Je vous remercie de votre attention.
Merci Florence de ces éclairages dont on souhaitait qu'ils soient convergents avec la présentation de l'enquête ESS de cette année, et on voit tout l'intérêt à la fois de regard, de terrain et d'approche convergente mais différente. Et donc, petit jeu de questions rapide, parce qu'on n'est pas en avance, mais ça va. Donc on peut prendre un petit tour de questions avant de passer à la table ronde.
Thank you. Just a quick question on the immigrant health.
Yes.
So do you have also information on the length of duration in the country, because we also know that there is a kind of a adjustment of the immigrant behavior.
There's a number of questions about migration was restricted, but since the wave 5 or 6, I'm not sure, 5, I think, a lot of questions have been added. In particular, we have the date of entry on the territory, the length of duration, also the control of birth of parents, and it's now possible to distinguish first and second generation, for instance, and to have more information about the the life history of migrants. And yeah, and also Share Life have also provided more information on migrants with specific questions on life history.
Rory?
Thank you for an excellent presentation. I have two questions, one of which is the retrospective data collection.
Yeah.
Obviously, that's going back over a long period of time. Do we know, or has any research been done into sort of how the recall works for people going back over such a long time? And my second question was, do you have anything in the... Well, could you tell me a bit more about how income's measured? Because it seems to be particularly rich on that level. So it'd be nice if you could just unpick that a little bit. Thank you.
Concerning the validity of retrospective question, it is still one issue, in particular when people are very old and they can imagine that there is more difficult. We have to indicate that people can be helped by a proxy in order to answer the question. And when there are two spouses in the household, they could be interviewed together. So it could be also possible a way in order to have more accurate information. But if they want, they can be separately interviewed. And in particular, it is one issue in order to have data about their personal life, and in particular, when they have several marriages in the past and so on. This is really one issue. But if we compare, we have compared information, for example, given on the date of death of parents, for example, with what we know about mortality in the past for the generation, and it seems to be very similar to information we have. It is also checked by what we know about education, for example, in census for the generation and so on. But it is clear that it has to be used carefully, I think. Your second question was?
About the
income.
Income, yeah.
Income, yes. So we ask a lot of questions about the various sources of income in order to obtain the more accurate measure of income, and not only global income, but all type of for example, social support. We have, for example, information about sick leave, and then to have a very precise description of the sources of income. And because we are at home, it's also possible to have a look on a taxation document, for example. So.
Merci. Je vous en prie.
Thank you for your presentation. I enjoyed it. And my question relates to the overlap with the SS. Maybe the first question could be, what kinds of opportunities could we take together to...
Yes, I am sure.
Yeah.
There are a lot of opportunities together in order, for example, I think that the two surveys are very comparable in some issues. And then I'm sure we have not exactly the same countries involved in the survey, so it's possible, an opportunity to have a larger sample. I think perhaps it's also one issue in order to increase the size, the sample size for some subpopulation. One issue when we want to study a very old population is the number of people that are still alive and that are interviewed. Because, for example, when they are hospitalized, it's impossible to interview them and so on. And I imagine that it could be a way to increase our sample size. And I think as well that you have certainly more information about social environment. And I am sure that we have perhaps more information about economics condition of persons. I think we can share a lot of things with the data.
One more question. I really like your answer. My last question relates to The slide that we now see, also the ESS also has a question on unmet needs. And that relates to one of the really surprising findings in the ESS. So first, we didn't find any social inequality. I was really astonished. Why do we not see inequalities in unmet need by education? And then we looked into the data, and we found out it was because of the reasons. There were different reasons. So there were three main reasons. So acceptability and availability and what was the last one?
Financial barriers.
Well, yes. So basically waiting lists, right? And you cannot afford it and so forth. Mm. But the surprising thing was that those who answered that they could not take time from work, or they just didn't have time for it. Actually, though, that were the high-status reasons. Mm. Those were the people with resources who just had other more important things to do. So actually, when we take all of these groups together, we find nothing. But when we take only because of the financial situation, waiting lists, and so on, of course, then you find tremendous differences. So that's why I wanted to ask. So for unmet needs here,
yes. I guess here it is unmet needs for long-term care, so it is mainly related to the fact that it is linked to familial solidarity, or if it is organized by the health system. But we have also information about unmet needs in general. And we have, I think we have some inequalities related to income in country where there are some out-of-pockets. But it is clear that in general, it is a question which vary a lot from one country to another, and the reason why people don't go to the doctor are very different. But here I think it is something which could be interesting in order to implement a specific insurance for the elderly and for dependents, for instance. It is an important result for that.
Merci, Florence.
Merci.